Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir sur le cancer du sein. Permettez-moi de vous lire un mail, un courrier électronique que nous avons reçu il y a un petit peu moins d'une heure. Voici ce que nous écrit une auditrice, Cécile. J'ai découvert un cancer du sein il y a bientôt 3 ans. Après 9 mois de traitement très lourd, je suis maintenant en pleine forme et ne me suis jamais senti aussi bien. J'ai fait aussi appel à différents traitements alternatifs, acupuncture, homéopathie, magnétiseur, soins énergétiques, la course à pied, le traitement à peine terminé m'a permis de sortir de la maladie. J'ai d'ailleurs toujours refusé ce statut de malade. Aujourd'hui, je cours 2 à 3 fois par semaine. C'est une réelle voie de transformation. Je vis une vraie renaissance. Courage à toutes celles qui traversent cette douloureuse épreuve. Il faut croire en ses propres capacités à s'en sortir. Bien à vous, signé Cécile. Soyez les bienvenus.
Nicolas Demorand. Le téléphone sonne.
Jonathan, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons, vous nous appelez de Perpignan.
Absolument, je vous appelle de Perpignan, je vous salue bien fort.
Ben, nous aussi.
Et je salue vos invités. Ma question, elle était toute simple, c'est que j'ai une observation et une expérience qui est que dans la génération de ma mère, qui avait 7 sœurs, 3 des 7 sœurs sont décédées d'un cancer du sein. Et à l'époque, il y avait eu une batterie de tests génétiques qui avait été faite par l'Institut Curie à Paris, dont on n'a jamais eu les résultats, mais ça, il faudrait que je les redemande. Et ma question est la suivante, c'est que je souhaiterais savoir quelle est, pour les personnes de la génération, de ma génération, en revanche, c'est-à-dire des personnes qui ont 45 et 55 ans, quelle est la fréquence de dépistage qu'elles doivent respecter? Quels sont les tests de dépistage qui sont les plus poussés en matière de cancer du sein? Et la troisième chose, quelle est la part génétique, en fait, dans le cancer du sein?
Merci beaucoup, Jonathan, pour ces 3 questions que j'ai notées. Permettez-moi de vous présenter les invités du téléphone sonne. Anne-Vincent Salomon, bonsoir.
Bonsoir.
Médecin pathologiste à l'Institut Curie, Fabrice André, bonsoir.
Bonsoir.
Cancérologue, directeur de recherche à l'Institut Gustave Roussy, Véronique Julia, bonsoir.
Bonsoir.
Spécialiste santé à la rédaction de France Inter. Alors, les 3 questions de Jonathan, puis le témoignage, le beau témoignage de Cécile. Anne-Vincent Salomon, que pouvez-vous répondre à notre auditeur?
Alors, tout d'abord, que la part des cancers du sein qui sont transmis de façon héréditaire ne représente que 5 à 10% de tous les cancers que nous devons prendre en charge. Donc, c'est une très petite cause, enfin, un très petit pourcentage. Mmh. Maintenant, il faut bien comprendre aussi que les résultats des tests génétiques sont rendus aux personnes qui font ces tests et que les personnes de la famille d'une femme qui aurait fait ces tests ne sont pas à être informées, eux, directement du résultat. Et donc là, c'est très important pour notre auditeur qu'il comprenne bien que si ses sœurs ont eu des informations les concernant, elles peuvent ne pas les partager. Ça leur revient, cette information-là.
Et qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Eh bien que les tests génétiques réalisés pour faire, pour déterminer la prédisposition d'une personne à un cancer, les résultats lui sont remis dans le cadre d'une consultation par des oncogénéticiens qui vont accompagner le résultat d'explications. Mmh. Ensuite, qu'est-ce qu'il se passe si cette personne est porteuse d'une mutation? Donc, il n'est pas complètement étonnant que ce résultat ne soit pas forcément partagé si la personne atteinte ne souhaite pas
Il n'y a pas d'obligation d'information, c'est ça ce que vous voulez dire?
Alors, une fois que une fois que l'individu qui porte cette mutation, le rôle de l'oncogénéticien va être de l'accompagner à une prise en charge la plus ajustée possible pour lui-même et sa famille.
Un mot, Fabrice André, pour répondre à Jonathan?
Oui, alors d'abord, qu'est-ce qu'un cancer avec une transmission génétique? C'est quand il y a un gène, c'est-à-dire une anomalie génétique dans la famille, qui est transmise à la descendance. Et cette anomalie génétique a un risque d'environ, dans le cas de BRCA1, BRCA2, 70% hein, de risque de cancer du sein.
C'est le nom des mutations, BRCA1 voilà, et 2. Voilà.
Mais je pense donc, à viser d'information, il est extrêmement important que les auditeurs et auditrices comprennent que quand il y a 3 cas de cancer du sein dans la famille, il est extrêmement important qu'un généticien, via le médecin généraliste et le cancérologue, fasse une analyse génétique pour voir si ce gène n'est pas altéré dans la famille, ce qui a des conséquences importantes.
Mais alors, attendez, c'est sans doute moi qui suis lent d'esprit. Je ne comprends pas. On parle bien de 5%, c'est ça?
Alors, 5 à 10% des cancers du sein sont effectivement liés, comme Fabrice André vient de le dire, à la transmission aux enfants de mutations de gènes de prédisposition.
Mmh. Et tout ce que vous venez de dire concerne ce 5
à 10% des cancers pour le cancer du sein.
Vous voulez ajouter autre chose, Fabrice André?
Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, on peut prévenir la plupart de ces cancers dits héréditaires, via notamment suppression, ablation des ovaires, des surveillances, dépistage très particuliers. Donc pourquoi c'est important? Parce qu'on peut agir dessus. C'est pour ça qu'il est important de détecter.
Véronique Julliard.
C'est Angelina Jolie, le cas de la transmission héréditaire.
Exactement. Qui s'est fait. Réexpliquez-le-nous, Fabrice André. Le cas
Angelina Jolie. Voilà,
donc le cas Angelina Jolie, c'est exactement ça. C'est-à-dire une mutation qui confère un risque important de cancer du sein. Et donc là, la patiente...
Sa mère était morte d'un cancer du sein.
Avait décidé d'aller faire ce qu'on appelle une mastectomie bilatérale, ablation du sein à visée préventive. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à cet extrême. Il y a d'autres manières de dépister le cancer du sein et de prévenir.
J'ai voulu donner la parole à Cécile pour commencer parce que j'ai trouvé ce message absolument formidable qui dit à la fois la douleur, la lourdeur des traitements et en même temps la vie qui revient et qui revient profondément transformée. Comment avez-vous reçu, j'imagine que vous avez dû rencontrer des patientes comme Cécile, Anne-Vincent Salomon, comment avez-vous reçu ce beau témoignage?
Alors c'est un message plein d'espoir. Alors moi, en tant que pathologiste, je porte les diagnostics des cancers, je ne reçois pas directement les patientes. Donc ça, c'est l'expérience clinique de Fabrice. Mais néanmoins, quand on entend son témoignage, c'est un message d'espoir. C'est aussi pour dire aux patientes que, si elles sont diagnostiquées d'un cancer du sein, dans la très grande majorité des cas, on va la traiter et elle sera guérie. Et c'est ce message d'espoir qui est formidable dans ce témoignage de Cécile.
Et quand vous dites dans la très grande majorité des cas, s'il fallait mettre un chiffre sur cette phrase?
Alors, on peut dire que plus de 90% des patientes après 5 ans du traitement sont considérées comme guéries.
Fabrice André, sur ce beau témoignage.
Alors, effectivement, c'est un beau témoignage. C'est le quotidien des cancérologues, donc un métier extraordinaire, hein, puisqu'on arrive à guérir un grand nombre de patientes présentant un cancer du sein. Il faut bien distinguer deux types très différents de cancer du sein pour pas qu'il y ait de confusion auprès des auditeurs et auditrices. Le cancer du sein localisé, qu'on dit souvent pris à temps, hein, donc c'est une boule ou des calcifications dans le sein sans métastase, et le cancer du sein avec des métastases, c'est-à-dire en fait le cancer du sein qui a entraîné d'autres tumeurs, entre guillemets, filles, dans d'autres organes. Ce sont deux cas de figure très très différents. Dans le cas du présent témoignage, on parle d'un cancer du sein localisé, dont la plupart des traitements sont assez lourds, donc il faut faire preuve de beaucoup de courage, il faut voir ce que c'est.
Il y en a, hein, on l'entend dans ces phrases.
Hein. Non, c'est vraiment un grand courage de la part des patientes, mais à la fin, dans une grande majorité des cas, c'est la guérison au prix d'une ténacité et d'un courage important. Il y a plusieurs choses qui ont été mentionnées, peut-être qu'on reviendra dessus, mais premièrement, l'activité physique. Très important pour bien supporter les traitements, une meilleure tolérance des traitements, peut-être une diminution du risque de rechute, ce n'est pas formellement prouvé, mais c'est un élément extrêmement
important. Le fait de faire du sport.
Donc il y a des études dites épidémiologiques qui suggèrent que quand on fait du sport, à raison d'environ 2 heures par semaine, ça pourrait réduire le risque de rechute. Ce n'est pas des preuves scientifiques, ce sont des suggestions d'études de population.
Oui, donc, allez-y, voilà. Je vous en prie, Anne-Vincent Salomon.
Et à tel point qu'il y a des initiatives dans les centres dans lesquels nous travaillons, Fabrice André et moi, autour de la pratique du sport, et on encourage vraiment les patientes à le faire. Mais effectivement, en plus, on peut peut-être rajouter que il y a beaucoup de formes de cancer du sein différents. Et ça, c'est encore trop, on dit trop le cancer du sein, alors qu'il y a 20, 30 formes de cancer du sein localisées. Mmh. Et c'est tout notre enjeu, là, c'est dans les années qui sont écoulées derrière nous et puis devant aussi, c'est d'ajuster les traitements au mieux pour que justement l'expérience si lourde de la chimiothérapie soit réservée aux femmes qui véritablement en auront le plus besoin pour combattre la maladie.
Allez, on retourne au standard. Beaucoup d'auditrices et d'auditeurs ce soir sur France Inter. Bonsoir Françoise.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons, soyez la bienvenue.
Oui, moi aussi je vous écoutais et effectivement je pense qu'il y a un manque de vocabulaire pour cette maladie parce qu'il y a, beaucoup effectivement de formes et on a toujours ce mot-là, mais ma question n'était pas là-dessus. C'est que j'entends dire depuis quelques temps que les mammographies provoqueraient l'éclatement des cellules cancéreuses et en les activant, alors que c'est des cellules qui auraient pu rester bien tranquilles pendant plusieurs années. J'aimerais savoir ce que les personnes qui sont avec vous en pensent.
Eh bien, la question leur est posée et transmise. Anne-Vincent Salomon.
Alors, effectivement, il y a eu des hypothèses formulées comme quoi la mammographie aurait pu favoriser ou augmenter le risque de provoquer des cancers. Alors, là, on va... il faut tout de suite mettre les choses à plat. Non. La mammographie est un outil performant pour repérer des anomalies dans la glande mammaire, dans le sein, que ce soit dans les canaux du sein, et à ce moment-là, c'est dans cet arbre galactophorique de plein de petites glandes. On n'a pas d'autre moyen pour l'explorer que de réaliser ces mammographies. Et qu'est-ce qu'on essaye de voir? C'est des calcifications qui se mettent dans l'arbre galactophorique et qui traduisent, quand elles prennent certaines formes, la présence d'un cancer localisé dit in situ ou pré-cancer. Après, la mammographie permet aussi de dépister toutes les masses, les petites boules, et ce qu'on espère dépister le plus petit possible. Donc en fait, c'est l'outil que les radiologues ne cessent de rendre plus performant en faisant de la recherche intensivement pour améliorer les performances en fait de cette mammographie.
Et donc on peut dire, Fabrice André, aux auditrices elles sont un certain nombre à poser cette question, qu'il n'y a absolument aucun danger à la mammographie, hein, pour répondre bien clairement à Françoise.
Pour répondre bien clairement à la mammographie faite dans les délais du dépistage, une fois tous les deux ans dans certaines situations, une fois tous les ans, rarement, sont des situations bien précises. Si une personne se met à faire une mammographie tous les deux mois, non, c'est plus du tout la même chose, d'accord ? Donc la mammographie n'est pas nocive lorsqu'elle est faite dans les conditions du dépistage à des intervalles recommandés.
Alors, quel est le sens du débat sur la mammographie, justement, qui est un débat scientifique? Il y a des échanges d'arguments sur le surdiagnostic lié à la mammographie. Est-ce que vous pouvez faire un point là-dessus, qu'on ait bien les idées claires, Fabrice André?
Oui, on discutait juste avant avec Anne. Bon, alors, je vais commencer à introduire la question. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il se passe que dans les années 90 à peu près, donc il y a des études comparatives, c'est-à-dire le nec plus ultra de la preuve scientifique, qui ont montré que quand vous faites une mammographie de dépistage, vous réduisez la mortalité par cancer du sein. Donc là, on ne parle pas, c'est pas des petits mots, c'est preuve scientifique, réduction de mortalité. Donc ça part sur ces bases-là. La réalisation de mammographie est associée à une détection importante de tout petit cancer ou de lésions précancéreuses, donc je vais laisser Anne ensuite commenter ça, qui peut-être aurait mis longtemps à évoluer, et ça c'est ce qu'on appelle le surdiagnostic.
Mais c'est bien ou c'est pas bien le surdiagnostic?
Alors, moi ce que je vois de mon point de vue de cancérologue, je vais pas me récupérer le truc facile et après donner à Anne, mais c'est qu'il y a des études scientifiques comparatives qui montrent une réduction de mortalité. D'accord. Après tout le reste, ça va être de l'affinement. On va essayer de mieux cibler peut-être à qui faire les mammographies et tout, mais il faut bien dans le débat garder en tête qu'au départ, il y a des preuves scientifiques qui ont réduit la mortalité.
Mais Véronique, est-ce qu'il y a des gens qu'on opère, hein, des femmes qu'on opère pour des petites lésions qui, inconnues, seraient restées inoffensives ?
Fabrice André.
Il est possible qu'il y ait des patientes qu'on opère de cancer qui auraient mis très longtemps à évoluer, d'accord ? À mettre en balance avec le fait qu'on opère des patientes grâce à la mammographie qu'on guérit et qu'on sauve de cancer du sein parce qu'il y a eu cette technologie.
C'est plutôt le choix d'opérer qui pose question, alors.
En fait, alors, juste conclure, parce que dans tout changement de pratique médicale, dans des maladies très fréquentes comme le cancer, ce qu'il faut imaginer, et c'est pour ça que c'est que si vous faites quelque chose un petit peu mal, c'est une catastrophe sanitaire. Il faut bien garder ça en tête. Donc nous, en tant que cancérologues, hépatologistes et radiologues, on ne peut pas avoir notre pratique guidée par des peut-être. Nous, notre pratique, elle est guidée par la preuve scientifique et médicale issue d'études. Et on ne peut pas se dire, ah ben, tiens, demain, on va commencer à faire un petit peu différemment parce qu'on pense que peut-être ça serait... Non, notre pratique n'est pas faite comme ça. Elle est faite à partir de la preuve scientifique parce que tout écart peut avoir des conséquences dramatiques.
Anne-Vincent Salomon, sur ce débat.
Alors, c'est effectivement un débat intéressant de société qu'il est bon d'avoir, déjà. Je pense que c'est sain.
Et c'est pour ça qu'on l'a.
Voilà. Donc, après, les lésions qui pourraient être étiquetées comme surdiagnostiquées, ce sont, comme disait Fabrice, des lésions très lentement évolutives qui n'auraient pas mis en jeu la vie de la personne à qui on les détecte. Alors, les pathologistes essayent de standardiser les arguments diagnostiques pour dire cette maladie-là n'est pas un précancer, c'est même une hyperplasie canalaire atypique. Alors ça parlera à quelques-unes des auditrices, mais en gros, les cellules du sein se mettent à se multiplier un peu trop. Elles commencent à ressembler à des cellules de cancer, mais ce ne sont pas encore complètement des cellules de cancer. Et pour ces patientes-là, c'est vrai qu'on pourrait imaginer, dans un futur proche, ne pas les opérer. Et d'ailleurs, il y a des essais thérapeutiques qui vont dans ce sens. Les précancers, les cancers in situ, bientôt, il y a des essais cliniques qui vont ouvrir où on n'opérera plus certaines de ces patientes. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, notre enjeu, c'est de... Certes, continuer à faire des progrès dans les outils du dépistage, mais aussi d'ajuster les traitements. Et donc, maintenant, la chirurgie, c'est des chirurgies en un jour où les patientes viennent le matin, repartent le soir. Et après, leur histoire de traitement s'arrêtera peut-être juste à cette journée-là. Donc, on fait de la désescalade de traitement. Et donc, en fait, c'est le meilleur moyen que l'on a pour... dépassionner ce débat, je dirais.
Je donne la parole à Lily avant de vous la rendre, Fabrice André. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Mille excuses pour les 20 minutes et 32 secondes d'attente au standard de France Inter.
Pas de souci. J'appelais juste pour faire un petit témoignage. Voilà.
Allez-y.
Moi, j'ai 37 ans maintenant. J'ai 37 ans grâce au CHU de Poitiers. À 36 ans, j'ai été dépistée d'un gros méchant cancer du sein après un parcours très semblable à celui de Cécile. Et je voulais juste dire, les filles, apprenez à vous palper. Palpez-vous, repalpez-vous, parce qu'en dessous de 50 ans, on passe en dessous des radars de la campagne de dépistage systématique. Mais les femmes jeunes ont de plus en plus de cancer du sein et on est quand même, nous-mêmes, les premières actrices de notre prévention.
Mmh. Lily, excusez-moi, vous me dites si je suis indiscret. Vous l'avez découvert vous-même, en quelque sorte. Vous avez consulté après avoir fait une palpation, senti un truc bizarre.
J'ai senti une grosse boule bizarre qui n'était pas là avant, effectivement, et ça a été avant que ce soit trop tard.
Mmh. Merci Lily pour ce témoignage. Anne-Vincent Salomon.
Oui, bonsoir Lily. Je pense que vous avez dit exactement une parole juste, hein, ô combien. Il faut qu'effectivement les femmes apprennent à se palper les seins régulièrement, qu'elles aillent voir leur médecin traitant et leur gynécologue, qu'il y a le sein, mais il y a également le col de l'utérus, hein, et que les frottis cervico-vaginaux font partie de les gestes de dépistage des cancers de la femme extrêmement importants. Et donc effectivement, vous avez entièrement raison.
Quand vous dites qu'il faut apprendre à se palper, ça s'apprend ou il faut apprendre à le faire et prendre l'habitude de le faire.
Voilà, c'est plutôt prendre l'habitude de le faire, pas avoir peur de le faire.
Ne pas avoir peur.
Parce que la majorité des boules que vous sentirez ne sont pas des cancers. Donc déjà, il ne faut pas avoir peur d'aller palper ses seins et d'y trouver éventuellement une boule.
Mmh. Fabrice André.
Non, mais je pense que c'est la raison de cette émission, c'est de voir que l'information des signes d'alerte, c'est un des principales actions qui permettent de réduire la mortalité par cancer du sein. Et quand dans une société, les femmes savent qu'une boule dans le sein, c'est quelque chose d'anormal, en fait, ça génère en fait des diagnostics à temps et des traitements qui permettent de bien prendre en charge les patients. J'ai eu juste une patiente que j'ai vue cette semaine, et j'ai pensé justement, qui est venue malheureusement avec un cancer du sein localement avancé, qui ne pouvait pas être opéré. On discute un peu, elle me dit, mais j'ai ça depuis un an, mais ça a commencé à me faire mal il y a quelques semaines. Le signe d'alerte, c'est la boule.
C'est pas la douleur. La douleur, c'est déjà grave.
Exactement, et si les personnes qui nous écoutent ont ça comme message à la fin de l'émission, on a gagné ce qu'on est venu faire.
Eh bien, espérons-le, hein, ça sert aussi à ça, la radio et le téléphone sonne. Véronique, Julia.
Oui, Lily soulève un point intéressant, c'est qu'il y a une augmentation des cas chez les moins de 50 ans. Alors, est-ce que c'est confirmé? Le Monde sortait une enquête hier à ce propos, un petit peu alarmante et alarmiste, ou alarmiste, je ne sais pas. Qu'en est-il dans vos instituts?
Alors, Anne-Vincent Salomon, et puis Lily, qui est encore avec nous et qui veut reprendre la parole.
Alors, effectivement, on voit des femmes jeunes dans nos instituts se faire prendre en charge. Donc les chiffres du Monde sont ce qu'ils sont. Il faut leur mettre peut-être des tout petits. Il faut les prendre avec modération, bien sûr, puisque ils sont basés sur des registres qui ne couvrent pas la totalité de la population française. Néanmoins, ces chiffres nous montrent qu'effectivement, les femmes entre 30 et 50 ans ont une incidence qui a augmenté des cancers du sein.
Ça veut dire quoi, une incidence qui a augmenté? Il y a
plus de cancers du sein chez les femmes entre 30 et 50 ans qu'on ne le savait auparavant.
Voilà. D'accord. Donc c'est peut-être l'outil scientifique qui donne l'impression que ça augmente, c'est ça?
Voilà,
si
c'est
je
un
vous
peu
comprends
ça.
Bien.
Et alors après, il faut chercher à comprendre pourquoi.
D'autant que ça baisse chez les plus de 50 ans.
Alors chez les plus de 50 ans, ça baisse vraisemblablement en rapport avec une prescription diminuée des traitements hormonaux substitutifs de la ménopause. Mais pour l'incidence continuant à augmenter pour les femmes de 80 ans et plus, celles qui ne bénéficient plus du dépistage d'ailleurs.
Lily, vous êtes encore avec nous?
Je me permets juste de rajouter quelque chose.
Allez-y.
Au CHU de Poitiers, un groupe de femmes altérées par la maladie. On a essayé de répondre en n'étant pas passive lors de nos traitements. Nous avons fait des séances de photos de mode sur Facebook. Ensemble, changeons le regard. On organise des expos photos. Un calendrier va sortir pour montrer qu'on peut rester femme, féminine et pleine de vie, même pendant les traitements. Voilà.
Merci beaucoup, Lily, et bravo, vous dit Anne-Vincent Salomon. Fabrice André aussi a un grand sourire. On repart au standard. Marie-Claire, bonsoir.
Oui, bonsoir à tous.
Soyez la bienvenue. 20 minutes d'attente aussi, mille excuses.
Merci. Après l'acte chirurgical, je suis actuellement un traitement en radiothérapie pour un cancer canalaire in situ. Je voudrais savoir quel risque y a-t-il à suivre un tel traitement et y a-t-il des effets secondaires à long terme?
Merci Marie-Claire. Restez en ligne. Anne-Vincent Salomon et Fabrice André vous répondent. Fabrice André veut répondre. Qui y va? Allez.
Bon, alors, c'est
Fabrice
très simple.
André.
Donc, la radiothérapie, dans ce qu'on appelle un carcinome intracanalaire, hein, a prouvé que ça diminuait le risque ultérieur de rechute. Actuellement, où se dirige la recherche? La recherche se dirige en essayant de faire peut-être moins de radiothérapie dans certaines formes particulières. D'accord? Mais globalement, donc, il y a une preuve que ça sert à quelque chose. Ensuite, la définition et le risque évolutif du carcinome intracanalaire, je laisse ma collègue pathologiste répondre à ça, c'est sa spécialité.
Anne-Vincent Salomon.
Voilà, alors le cancer canalaire in situ, une fois que vous allez avoir terminé votre radiothérapie, vous n'en entendrez plus parler. Les rechutes sont rares, très rares, aux alentours de, malheureusement, quand même 10% des cas, mais c'est à 10 ans ou 15 ans. Donc dans la très grande majorité des cas, les carcinomes in situ, après la chirurgie et la radiothérapie, sont complètement guéris. Donc là, c'est vraiment aller prenez tout votre courage, continuez vos séances de radiothérapie. Il n'y a pas de risque autre que un énorme coup de soleil sur la peau, mais la peau va complètement récupérer et le radiothérapeute va vous accompagner dans la gestion de cette brûlure, en quelque sorte, de la peau, si elle existait.
Fabrice André ?
Non, c'est pour aller dans le sens de Anne. Donc, la radiothérapie du sein, c'est juste une brûlure sur la peau. Les technologies de radiothérapie ont été améliorées ces dernières années. Donc, la radiothérapie du sein, il n'y a pas de danger à long terme avec les technologies actuelles.
Il est 19h45, le téléphone sonne, continue sur France Inter.
France Inter, le 18-20. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
Aurélia, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de Montpellier ?
Oui, par là-bas, un petit village à côté de Montpellier.
Magnifique.
Oui, c'est vrai.
Nous vous écoutons, Aurélia.
Oui, j'ai une question. J'aimerais savoir si les hommes peuvent avoir un cancer du sein.
Très bonne question que je ne m'étais pas posée. Merci Aurélia. Anne-Vincent Salomon dit oui, oui, oui de la tête.
Oui, oui, absolument. Les hommes peuvent développer des cancers du sein. Ça reste vraiment très rare pour le coup. Mais ce sont des formes de cancer du sein tout à fait identiques à celles des femmes. Et le traitement qui leur sera appliqué va être un tout petit peu différent dans la mesure où on doit leur ôter toute la région du sein qui n'est pas du tout développée comme celui des femmes, bien évidemment. Et ce sera complété par éventuellement de la chimiothérapie.
Et même principe, alors, se toucher et voir s'il y a un problème, c'est ça ?
Et les hommes qui développent des cancers du sein, pour rebondir sur le tout début de notre conversation, généralement, il est conseillé ensuite de faire une enquête génétique dans la famille des personnes touchées.
Fabrice André voulait dire un mot ?
Exactement la même chose. Quand il y a un cancer du sein chez l'homme, attention au risque génétique. Il faut que le médecin généraliste, l'oncologue, le généticien voient s'il n'y a pas une transmission d'un gène.
Alors, des questions rapides et très courtes, très pratiques qui nous viennent par courrier électronique. Agnès, j'ai 51 ans, je n'ai toujours rien reçu pour le dépistage. Qui dois-je contacter ?
Sa caisse d'assurance maladie ?
La caisse d'assurance maladie répond Anne-Vincent Salomon.
En espérant ne pas me tromper.
En espérant ne pas se tromper. Mille excuses Agnès de ne pas pouvoir répondre plus précisément. Axel, comment expliquez-vous la recrudescence de cancer du sein depuis 20 ans ? La génération des plus de 70 ans a été beaucoup moins touchée que celle qui a aujourd'hui 45-50 ans. On y faisait référence rapidement tout à l'heure. Est-ce que vous voulez rajouter un mot ?
Oui, alors d'abord,
Fabrice André.
Globalement, l'incidence n'est pas en augmentation. Il y a une petite augmentation, comme on a dit tout à l'heure, 30-50 ans, puis une diminution après 50 ans. Une petite observation scientifique. Quand vous prenez les femmes japonaises, qui font très très peu de cancer du sein, vous les mettez aux États-Unis, l'incidence de cancer du sein devient la même que les américaines. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le risque de cancer du sein est dans l'environnement, pas au sens écologique du terme, mais dans ce qui nous entoure, les facteurs exogènes, les hormones, peut-être la nutrition, mais on n'a pas encore bien identifié ces agents causaux.
Suzanne demande ce qu'il en est des liens éventuels entre perturbateurs endocriniens auxquels nous sommes constamment exposés, EES, dit-elle, et cancer du sein. Y a-t-il des études à ce sujet ? Une corrélation établie ? Point d'interrogation. Anne-Vincent Salomon ?
Alors oui, il y a certainement une corrélation à tel point que les pouvoirs publics ont pris en main le sujet et qu'il commence à y avoir des réglementations indiquant aux industriels de l'agroalimentaire de retirer certains bisphénols des conservateurs alimentaires et des résines et des plastiques. Donc oui, sûrement. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est un parmi d'autres, certainement.
Fabrice André ?
Exactement. Ce qu'il faut comprendre, le cancer du sein est un agent multicausal. Il y a plein de causes qui, lorsqu'elles sont toutes réunies, crée un cancer du sein. Donc il est extrêmement difficile
d'en isoler une.
Et c'est tout le problème de pourquoi, depuis 50 ans, on a du mal à identifier un facteur comme le tabac pour le cancer du poumon. Personnellement, j'ai confiance dans les agences de régulation et réglementation. On sait que s'il y a un facteur identifié avec des bases solides, il est immédiatement exclu. On est assez bon là-dessus en Europe.
Isabelle nous dit qu'elle trouve, pour sa part, l'examen de mammographie très douloureux, très désagréable, ce qui m'amène à repousser à chaque fois la prise de rendez-vous. Y a-t-il des alternatives ? Qui veut répondre ?
Non, les preuves scientifiques ont été obtenues avec la mammographie. Il n'y a pas de preuve pour le dépistage systématique avec l'échographie. Et l'IRM, c'est des cas très particuliers. Donc, il faut prendre son courage à deux mains, y aller, en étant accompagné de son compagnon, de son...
Ou d'une amie, ou d'une amie, d'une copine, ou d'une sœur, d'une frangine.
Voilà. Voilà, faut y aller.
Donc, Isabelle, faut y aller, vous allez souffrir, mais il n'y a pas le choix. Hein.
Après,
vous allez avoir un peu mal.
Il y aura peut-être des perspectives un peu plus extraordinaires.
Ça, c'est Anne-Vincent Salomon. Voilà. Des perspectives pour quand?
À 10 ans. Le problème, c'est que le tempo de la recherche est toujours un peu lent, mais on travaille en tout cas à essayer de trouver d'autres méthodes.
Une dernière question de Raphaël. Il y en a plusieurs sur ce thème. Je prends l'émission en cours, nous dit Raphaël, et je souhaiterais savoir s'il existe des études scientifiques qui font une corrélation entre cancer du sein et pilule. Anne-Vincent Salomon. Fabrice André.
Oui, alors, donc, les pilules ont été classées par...
Pilules contraceptives.
Voilà, les pilules ont été classées par l'OMS comme étant associées à un risque carcinogène très, 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 très faible. Donc, il y a un tout petit risque associé aux pilules. Il ne faut pas stresser. C'est un tout petit risque qui est intégré à notre mode de vie. Et voilà, donc il faut attention. Le risque est extrêmement minime. Bon, voilà, mais il ne faut pas changer son mode de vie pour ça. Il est trop minime pour qu'on change son mode de vie. Sauf en cas de risque élevé, génétique, d'antécédents personnels, où là, il faut discuter avec le gynécologue et le cancérologue.
Cette précision est importante. Anne-Vincent Salomon. Bon,
et je vais rajouter une on est à la radio, profitons-en. Il faut aussi également toujours penser pour les jeunes femmes à se protéger d'autres maladies. Et donc, le préservatif, ça reste quand même aussi un bon moyen de se protéger des transmissions des papillomavirus qui sont
autres
à l'origine
cancers,
des cancers du col de l'utérus et d'autres.
Ben, la question était très importante. Sylvie, bonsoir.
Bonsoir.
Nous vous écoutons. Mille excuses pour le quart d'heure d'attente.
Il n'y a aucun problème.
C'est gentil.
Bonsoir. Donc, je voulais vous poser une question par rapport à l'hormonothérapie. Moi, j'ai eu un cancer du sein en 2015. J'ai eu un petit peu de chimio. J'ai eu de l'herceptine. Et ça fait un an que je suis sous tamoxifène. Et le traitement sous tamoxifène est assez long puisque ça dure 5 ans. Et les effets secondaires sont, moi je les trouve assez invalidants en fait, type de douleur, de bouffée de chaleur, d'insomnie, de troubles de l'humeur, de troubles de la concentration. Et est-ce qu'il existe quelque chose pour atténuer ces effets secondaires?
On pose la question, Sylvie, à Fabrice André. Merci de nous avoir téléphoné, Fabrice.
Alors, effectivement, ça c'est un témoignage qui est commun et qui représente bien ce que vivent les patientes qui ont de l'hormonothérapie. Donc le tamoxifène, l'hormonothérapie, c'est quoi? C'est un médicament qui empêche les hormones de stimuler le cancer et qui réduit considérablement le risque de rechute ultérieure par cancer. Donc c'est un médicament qui est extrêmement important pour éviter les rechutes. Alors... Donc, ce que décrit Sylvie, c'est effectivement les effets indésirables des hormonothérapies, bouffée de chaleur, un peu de prise de poids, un mal-être un petit peu général. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas trouvé de remède miracle pour éviter les effets indésirables, mais, et là on revient, activité physique, c'est important, du soutien psychologique, c'est extrêmement important, si possible, un retour au travail, réintégration d'une vie sociale. Et juste pour mentionner qu'en France, donc l'ANR s'intéresse à ça, puisqu'il y a une grande cohorte, une grande étude consacrée spécifiquement aux effets indésirables de l'hormonothérapie pour les réduire, disant que c'est bien un sujet de recherche important en France.
Sylvie, vous êtes encore là?
Oui.
Vous faites un peu de sport, d'activité?
Tout à fait.
Oui. Et ça vous aide quand même un petit peu ou pas?
Alors, ça m'aide, mais en fait, je peux pas faire des choses très compliquées. Je fais de la marche, je fais un peu de yoga, mais la plupart des exercices, je peux pas aller jusqu'au bout parce que j'ai mal, quoi.
Oui, ça vous est compliqué, ça vous est douloureux.
Ouais.
Vous voulez dire un mot, Anne-Vincent Salomon?
Non, juste renchérir sur ce qu'a dit Fabrice. Et c'est vrai que c'est quand même une des thérapies les plus efficaces pour diminuer le risque de rechute. Les récepteurs aux œstrogènes qui sont sur les cellules tumorales sont bloqués par ces médicaments hormonaux, enfin ces traitements hormonaux. Il faut vraiment...
Il faut les prendre et il n'y a pas moyen donc d'atténuer de manière substantielle les effets secondaires. Mille excuses, Sylvie. Bonsoir, Lisa.
Merci, bonsoir.
Vous nous appelez de Nantes. Vous avez quel âge ?
21 ans.
Vous êtes toute jeune, donc c'est bien. C'est ça. Alors, dites-nous.
Moi, j'ai dans ma famille deux personnes, donc ma grand-mère et ma mère qui sont, qui sont décédées du cancer du sein après des années de lutte. Et on m'a toujours appris qu'il fallait faire une première mammographie à 25 ans pour vérifier en effet qu'il n'y ait pas de soucis. Et on m'a appris aussi que ça devait être généralisé à toutes les femmes. Et elles sont très peu renseignées à ce sujet-là, les jeunes. Mmh. Je suis sur un site de rencontre entre mamans et lorsque j'ai posté un message à ce sujet, les mamans étaient surprises que ça se passe avant 50 ans, qu'il peut y avoir des cas.
Alors, vous avez ici Anne-Vincent Salomon et Fabrice André qui vont vous donner toutes les informations. Donc 21 ans, le contexte familial que décrivait Lisa, les mammographies à 25 ans, point d'interrogation.
Non, il n'y a pas de point d'interrogation, c'est certain, il ne faut pas faire de mammographie à 25 ans.
Vous entendez, d'accord. Lisa ?
Parce que, j'entends. Un, on ne voit rien, et deuxièmement, ça fait trop de mammographies. Et là, pour le coup, ça risque d'accumuler un petit peu les rayons. S'il y a deux cas dans la famille, il faut se renseigner sur à quel âge sont survenus ces cancers, est-ce que par hasard il y a d'autres cancers, et voir avec le médecin généraliste s'il n'y a pas indication à un test génétique, là encore en fonction de l'âge survenu du cancer, du type de cancer et d'autres cancers éventuels.
Eh bien, justement, ma grand-mère avait fait les tests génétiques et il s'est avéré qu'il n'y avait aucune donnée génétique à ce sujet-là, mais par contre, dans la famille, nous sommes très sujets au cancer.
Et oui, alors, comment l'expliquer ? Alors, attendez, Anne-Vincent Salomon va prendre la parole, Lisa.
Oui, une famille sujette au cancer, après, il faut effectivement voir à quel âge et quel type de cancer sont survenus dans la famille. Parce que malheureusement, on le sait tous bien que les cancers du poumon, les cancers du côlon, les cancers du sein, ce sont des cancers très fréquents dans la population générale. Et que dans les familles, on a tous été confronté
à la prise,
d'une manière ou d'une autre. Donc là, c'est vraiment comme le disait Fabrice, l'âge auquel surviennent les cancers, dans un contexte héréditaire, les cancers surviennent jeunes. Et en matière de cancer, on est jeune jusqu'à 35-40 ans. Après, on est vieux.
Alors, répondez. Merci, Lisa, pour votre appel. Une question de Noémie qui nous dit « J'ai 38% de chance, entre guillemets, d'avoir un cancer du sein vers 40 ans. Les tests génétiques sont tous négatifs. J'ai aujourd'hui 30 ans, je fais quoi ?»
Alors, c'est vrai que l'explication de l'identification de mutations, c'est-à-dire de fautes d'orthographe sur les gènes qui transmettent le cancer, sont identifiés dans 30% des cas maximum. Donc après, les autres transmissions héréditaires, malheureusement, on n'a pas mis la main sur le cancer, le gène responsable.
Elle fait quoi alors ?
Alors, d'abord, il faut voir...
Fabrice André, puis Hélène au standard.
Ouais, donc il faut voir comment a été déterminé ce chiffre de 38% de risque. D'accord.
Il a l'air assez précis pour être honnête. Hein.
Pour être autant précis, il doit probablement être robuste. S'il y a 38% de risque avéré, alors, en tout cas, nous, à l'Institut Curie et à Gustave Roussy, puisqu'on partage le même référentiel, il y a effectivement du dépistage individualisé avec des méthodes d'imagerie un petit peu modernes. Donc là, la meilleure action à prendre, c'est revoir le généraliste qui se remet en contact avec un centre hospitalier à proximité pour adapter le suivi.
Noémie, cette question, vous nous l'avez posée par courrier électronique. J'espère que vous avez bien entendu la réponse. Bonsoir Hélène.
Oui, bonsoir, merci pour mon appel.
Je vous en prie.
À la fin, je suis un petit peu enrhumée, excusez-moi.
Ça arrive à tout le monde.
Je voulais aller dans le même sens que le message de la première lettre que vous avez lue.
Cécile.
On encourage les femmes. Moi, je voudrais encourager les maris. Quand ça nous arrive et qu'on est en couple, ce qui est mon cas il y a 10 ans, en BRCA1, avec des complications, double mastectomie, ovariectomie, il y a quelqu'un à côté de moi qui a tenu la route et c'est mon mari. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'occupe aussi beaucoup, dans le cas des couples, des hommes qui souffrent énormément. Et cette souffrance, elle prend plusieurs formes. Il y a des maris qui partent parce que c'est insurmontable. Il y en a qui restent, il y a des couples qui explosent. La vie est compliquée et aujourd'hui, peut-être que le mari est à côté. Je ne sais pas si on en prend soin. Et la guérison, elle marche aussi parce que le couple marche. Et ce soutien, il est formidable.
Merci beaucoup, Hélène, pour votre témoignage. L'appel est lancé aux hommes et aux maris, comme vous le disiez à l'instant. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce téléphone sonne. Merci, amis auditrices. Merci, amis auditeurs, d'être intervenus si nombreux ce soir. Nous reparlerons de ce sujet. On voit que l'information est absolument cruciale et qu'elle commence par des gestes extrêmement simples qui peuvent avoir de très belles et bonnes conséquences. Merci encore à tous. Le journal est à suivre.